Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
November fall. Don't like this feeling at all. My mouth tastes a cigarette. But no regret, just you and me by the sea, and that goodbye kiss. No more than these traces in the sand. You dropped the burden. An unborn memory of traces in the sand.
La personnalité que nous allons vous présenter aujourd'hui est une artiste intègre, sincère, honnête, qui a toujours recherché la liberté de créer sans se soucier des modes, des contraintes du marché ou des catégories musicales. Née à l'époque du festival de Woodstock, elle a très tôt ressenti la puissance de la rébellion rock et la force expressive de la culture afro-américaine. Ses héros ont porté la voix de la contestation de Jimi Hendrix à Marvin Gaye, Otis Redding ou Billie Holiday. Natalia M. King est notre invitée dans l'épopée. Soyez la bienvenue.
Je te remercie, Joe Farmer. Thank you so much. Merci.
Vous parlez désormais le français car vous avez choisi de vivre dans notre beau pays où vous avez trouvé un espace d'écoute et de créativité. Est-ce que les États-Unis restent hermétiques à leur propre patrimoine sonore, le blues, le jazz, la soul, le gospel que vous défendez?
Non, non, pas du tout. Le fait que Obama avait béancé ainsi bien Aretha Franklin dans de différentes célébrations, ça veut dire que non, on tient bien qu'est-ce que c'est l'héritage African-American aux États-Unis, c'est sûr et certain. Et on encourage plus en plus, hein, c'est sûr et certain.
On a l'impression quand même que les Américains ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire.
J'ai du mal à croire, spécialement avec tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui à propos des hommes noirs. Oui, on plonge dans l'histoire, il ne faut pas oublier tout ce qui concernait le droit civil, les leaders de ça, les raisons de ça. Donc non, je ne pense pas. Je pense que peut-être on n'est pas assez impliqué comme les années 60, mais on n'a pas oublié, ça c'est sûr.
Vous êtes arrivé en France en 1998, après avoir sillonné les États-Unis de long en large.
J'étais né en 69.
Et vous êtes né en 69, ouais, l'année de Woodstock.
C'est ça, ouais, ouais.
Qu'avez-vous appris de la Grande Amérique durant ce périple qui allait de l'Alaska au Grand Canyon?
Tu sais, à passer le Greyhound, à traverser les États-Unis en Greyhound, c'est quelque chose. Tu vois la totalité de ton pays. Moi, je suis venue de New York, donc tout le reste des États-Unis, je ne connaissais pas. Et il fallait le voir, d'Arizona, passing through Texas, jusqu'à Oregon. Ça m'a montré tout le facette de qu'est-ce que c'est d'être américaine. Et c'était beau à voir. Pas de regrets. Je pense que c'est important que même en étant américaine ou même en français, de connaître vraiment, vraiment son pays. Et pour faire ça, il faut le voir.
Et il y a différentes formes de blues en fonction de l'endroit où on se trouve.
Absolutely. De Texas, c'est en forme de blues. De Chicago, c'est une autre forme de blues. À Tennessee, c'est une autre forme de blues. Et même à New York, c'est une autre forme de blues. Donc, je pense que basé sur l'endroit géographique, etc., et l'expérience qui est passée via là. Mais oui, le blues, il a beaucoup de facettes.
Quelle impression vous a fait la France la première fois que vous avez foulé cette terre du vieux continent ?
C'est marrant que tu demandes ça. Tu sais, j'avais une certaine nostalgie avec la France de la rive gauche, avec tous les musiciens jazz qui est venu. Il y avait un certain esprit bohémien, entre parenthèses. Et quand j'y arrivais, je ne connaissais pas la France du tout. Et j'arrivais à Marie de Clichy. Donc je disais... Paris, ça a changé beaucoup, tu sais, parce que je connaissais pas le centre, entre parenthèses. Donc, la première impression, c'était, si c'est pour arriver à Brooklyn de France, je préfère retourner aux États-Unis. Après, les Français m'ont dit, mais c'est pas Paris, Paris, là. Et grâce au métro, je rentrais dans Saint-Germain, Louvre.
Le Louvre, oui.
Louvre, la Défense, la vraie, entre parenthèses, Paris qu'on connaît en étant américaine. Et voilà. Donc, la première impression, elle était un peu rigolo, on va dire ça.
Saint-Germain-des-Prés, est-ce que c'était justement l'image que vous aviez de la France ? Quand on parle de Saint-Germain-des-Prés, on pense à Miles Davis,
absolument,
Juliette Gréco,
absolument,
on pense à toute cette époque-là, Kenny Clarke, tous ces musiciens qui allaient dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés.
Bah, c'est exactement ça. C'était ça dans mon idée. Il y avait l'écrivain James Baldwin aussi qui est venu beaucoup en Paris et qui donnait un truc assez révolutionnaire à propos d'un esprit bohémien. Et ça m'intéressait, entre l'intellectualité et la musique jazz, et même la musique du monde, c'était ça l'impression que j'avais et que je cherchais en venant ici.
Et alors, vos premiers albums étaient plutôt rock, assez bruts. Je me souviens notamment de Fury and Sound en 2003, qui était presque punk comme album.
C'est ça.
Quel regard vous portez maintenant sur ces premiers enregistrements très intenses ?
Je pense que, comme toi, que la vie est un processus. Que c'est en étape après en étape. Il y a un moment où on crache nos venins, je pense que c'est nécessaire. Et avec le temps, l'âge et l'expérience, on chuchote nos peines.
Est-ce que Soul Blaz et Blues Until Dawn, vos deux derniers albums, vous paraissent plus sereins ?
Comme je dis à beaucoup de gens qui m'interviewent, je me sens à la maison maintenant. I feel at home. Je me sens dans le blues, dans le jazz, je me sens posé. Et serein. Oui, on peut utiliser ça comme adjectif parmi des autres.
Est-ce qu'ils sont dans la continuité de Milagro, Fury and Sound et Flashy Speaking ?
Ils sont toujours dans la continuité, en le sens que j'essaie toujours de donner des émotions et parler de l'expérience existentielle d'être vivant et d'aimer. Et de ne pas sentir aimé, et des séparations, et de retrouver l'amour. Donc, une continuation dans ce sens-là, avec moins de piquante.
J'entends l'écho de Billie Holiday dans votre voix. Est-ce que vous êtes resté une écorchée vive, malgré la maturité et l'expérience ?
Je pense que nous sommes tous. C'est un mensonge de dire que c'est seulement moi. Une écorchée vive, en être vivant, oui. La sensibilité, elle est toujours là. Mais les plus apprivoisés.
Adapté Don't Explain, par exemple, immortalisé par Billie Holiday en 1946.
Et Nina Simone, et en version Nina Simone, excellent.
Est-ce que adapter Don't Explain, c'est rendre hommage à Billie Holiday et Nina Simone, ou est-ce que c'est vous raconter ?
C'est moi qui l'ai approprié, entre parenthèses, parce que cette version de Don't Explain, il est un peu plus avec attitude. Ce n'est pas une résignation. Je comprends que tu triches, je comprends que tu as des autres amantes et j'accepte parce que je t'aime. C'est plutôt, je vois ton jeu et je m'adapte, mais je le vois.
Écoutons ce classique de l'épopée des musiques noires, réinventé par Natalia M. King, extrait de Blues In Till Dawn.
Hush now, don't explain. There ain't nothing to gain.
your back, don't explain. Quiet, baby, don't explain. There ain't nothing to gain. Skip that, the lipstick, don't explain. No, don't explain.
Explain, une nouvelle version du classique de Billie Holiday ou de Nina Simone par Natalia M. King, notre invitée dans l'épopée. J'ai le sentiment que vous vous êtes davantage plongée dans la culture afro-américaine ces dernières années.
C'est absolument ça.
Pourquoi ?
Je répète ça avec l'âge. On cherche plutôt nos racines. Et après avoir exprimé la rage de jeunesse, je replonge dans qui je suis, une africaine, hispanique, américaine, qui a vécu aux États-Unis, qui sait qu'il y a des choses qui existent toujours, qui sont injustes, vers mon couleur de peau, vers la personne que je représente. Donc, avec le temps, ça devient plus important que notre petite colère capricieuse de qu'est-ce qui n'était pas juste quand on était jeune.
J'ai l'impression que vous ressentez le besoin de connaître l'histoire du peuple noir, votre propre histoire, parce que vous êtes, comme vous le dites, afro-hispanico-américaine, car vous avez des racines forcément africaines, mais aussi dominico-panaméennes.
Absolument.
Un vrai métissage. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous pousse à vous plonger dans l'histoire de la diaspora noire dans le monde.
Je pense notre sang, nos nerfs, nos expériences. Je vais plonger même dans un truc psychanalyste, le transgénérationnel qui existe dans nous. Et c'est avec l'âge que ça devient plus en plus important. Spécialement, sans parler trop de politique, mais avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, avec African-American men, le moderne lynchage qui est en train de passer. Aujourd'hui, on ne le met pas sous des arbres, mais on le tue quand il bouge. Donc, on est malheureusement rappelé encore qu'il y a quelque chose à défendre.
Sur le précédent album, Soul Blaze, vous aviez adapté un classique de Sam Cooke, Today I Sing the Blues. Mm-hmm. Il y avait aussi une relecture de Nutty du pianiste Thelonious Monk, très réussie. Mm-hmm. Est-ce que durant votre absence discographique entre 2007 et 2014, vous avez écouté beaucoup de musique et enrichi vos connaissances musicales?
De tout cas, j'écoute beaucoup de musique, n'importe où je suis dans ma vie. Oui, je replongeais dans la musique, dans un autre sens, en écoutant des choses qui me parlaient à l'instant. Et c'était beaucoup plus bluesy, beaucoup plus jazzy, beaucoup plus black.
Et pourquoi vous avez eu besoin de faire cette pause de 7 ans? L'industrie du disque vous avait déçu?
Ça, c'est fait vraiment un des éléments qui a fait en sorte que j'ai pris cette sabbatique. C'est, j'avais fini avec Universal Jazz. Il n'y avait aucune maison de disques qui était intéressée, entre parenthèses, dans la musique de Natalia M. King. Mais je pense que Natalia M. King, elle n'était pas seule. Donc, il y avait tout un questionnement de doute. Il y avait des choses aussi personnelles qui passaient en même temps. C'est parce que la vie était en train de dire « It's time to take a break ». C'est un moment pour prendre une pause. Il voit où la vie t'amène. Et la musique, entre parenthèses, il a pris une petite pause pour que je pouvais plonger plus dans la vie. Aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Rien du tout. C'est comme quand on est malade. Quand on est malade, c'est parce qu'on n'a pas écouté le corps avant. Et donc, bon, ça manifeste. Mais c'est ce temps de sabbatique. C'était parce que j'étais dans un espace où il y avait une forge dans la route. Il fallait que je choisisse une chose. J'ai refusé, j'ai résisté, parce que je suis rebelle. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps quand enfin je disais, eh ben non, c'est pas là. Et voilà.
Donc c'était une phase d'introspection.
Absolument. Plus introspective que ça, c'est pas possible.
Lors de notre dernière rencontre en 2003, mais oui, ça fait 13 ans, vous vous définissiez comme une artiste post-hippie, une poétesse psychédélique. Est-ce que ce portrait vous convient toujours ?
On va dire, si je peux dire ça dans les antennes, je fume beaucoup moins. Et bah oui, le rocker, il est toujours là quelque part, mais elle est moins. Mais l'esprit assez vivant, elle est toujours batailleuse entre parenthèses, elle est toujours là, mais moins psychédélique maintenant.
Donc, si on devait définir la Natalia M. King de 2016, c'est une personne plus sage.
J'aime bien penser, présumer ça, mais beaucoup plus sage, avec beaucoup plus de recul. Dans la vie, avec l'âge, tu comprends, de prendre un peu plus de recul, ça évite beaucoup des accidents.
On vous a souvent comparé, par votre attitude, votre personnalité et votre indépendance d'esprit à des artistes comme Nina Simone ou Janis Joplin également.
Compliment, merci.
Est-ce que vous vous reconnaissez en elle ?
Absolument. Janis Joplin, pour tout ce qu'elle avait essayé de vraiment transmettre en émotion, en commençant par les tripes, et Nina Simone, par évidemment son attitude. Donc oui, j'aime bien penser que vous voyez, toi tu vois ça en moi, et que les gens voient ça en moi, et que je le porte, parce que je suis ça.
J'aimerais que nous écoutions maintenant « Little Bit of Rain » avec une introduction à la trompette par Ronald Baker, excellent trompettiste, avec une tonalité Miles Davis au début de ce titre qui est juste parfaite.
Je voulais de l'espace, il a donné parfaitement.
De qui est cette chanson ?
Cette chanson est de Fred Neil. Fred Neil, c'est un artiste de folk très connu pour le chanson « Everybody's talking at me ». I can't hear the words they're saying. Tu connais ça?
Je connais ça.
Je pense que tout le monde connaît ça.
Exactement.
Donc, c'est les connus pour ça, mais un artiste folk, vraiment, de l'époque de Bob Dylan et Karen Dalton. Et Joan Baez, évidemment.
Et pourquoi avoir choisi ce titre pour terminer l'album? Parce que ça ressemble justement à votre tonalité folk du milieu des années 70.
Non, c'était plutôt le blues. Il évoque beaucoup des émotions. Et je pense que quelque part, elle évoque la mémoire. Donc, je voulais dire à les auditeurs, si un jour vous penserez à moi, pense à moi avec du soleil et un petit peu de pluie.
A little bit of rain.
That's it.
Vous en avez fait donc un blues avec une tonalité empruntée à Miles Davis, je le disais, grâce à la virtuosité de Ronald Baker. Voici A Little Bit of Rain. Natalia M. King, notre invitée dans l'épopée.
If I should leave you, try to remember all them good times, warm days filled with sunshine, just a little bit of rain. Forget about all them bad times, lonely blue and sad times, just a little bit of rain, just a little bit of rain.
Tout en délicatesse, c'était Little Bit of Rain, extrait de Blues In Till Dawn, le dernier album de la chanteuse Natalia M. King, que nous avons été enchantés de rencontrer 15 ans après notre première rencontre. J'entends Kind of Blue de Miles Davis quand j'écoute ce titre-là.
C'est énorme comme un compliment, parce que Miles, évidemment, il est sous le pédestal, il est là. Et qu'est-ce que j'avais essayé de créer, qu'on entend de l'album Kind of Blue, c'est de l'espace. tu vois, un certain transe qui est né de l'espace. Et dans cette chanson, c'est qu'est-ce qui était exécuté par la musique aussi, par la voix. Je pense que c'était bien fait.
En tout cas, cette humeur-là, on la ressent vraiment. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouvel album ?
Oui, ah. Qui plonge un peu plus encore dans le blues. Je pense pour le prochain, ça, il y a beaucoup plus de guitares qui donnent un aspect encore plus bluesy.
Donc plus Buddy Guy, on va dire.
Plus, je dirais, entre... Buddy Guy, c'est un super exemple, mais plus entre, je dirais, un certain B.B. King. Mm-hmm. Et en ce moment, j'écoute sans cesse Kenny Burrell, l'album Midnight Blue. Mais la simplicité, B.B. King, he was a great guitarist. Super guitariste parce qu'il était simple. Hein, qu'est-ce qu'il jouait ? C'était pas beaucoup de notes, c'est des notes qui comptaient sur l'instant. Voilà, donc c'est ça que je vais essayer de faire de tout cas.
Est-ce que vous avez rencontré certains de vos héros ?
Je rencontrais tout de suite, qui vient à ma tête, je rencontrais Ravi Shankar et je rencontrais Compay Segundo quand j'étais à Paris.
De Cuba.
De Cuba. Donc le fait que j'avais rencontré ces deux hommes assez mythiques, je dis quelque part, dans le mystique, peut-être je suis sur le bon chemin.
Mais est-ce que quand vous rencontrez justement de telles personnalités, ça a eu une influence sur éventuellement votre créativité ou votre inspiration ultérieurement ?
Ça aide aussi à la créativité, mais ça aide surtout sur les racines de qu'est-ce que je suis en train de devenir via la musique, tu vois. Je ne sais pas s'il y a un sens à ce que je dis, mais l'impulsivité, elle est toujours là, mais je le laisse le temps, de, comme en Bordeaux. Tu vois, d'agir un petit peu. Je pense qu'en Bordeaux, au début, il est bien impulsif et tu le donnes 10 ans de plus et tu le bois. Miam, miam.
Vous commencez à avoir de vraies valeurs françaises, Natalia M. King. Bon, donc on se retrouve dans 15 ans et on verra comment vous avez évolué d'ici là.
Ok, avec immense, immense plaisir.
Et comme vous êtes invité de notre émission cette semaine, c'est vous qui allez choisir le dernier disque de l'émission. Qui aimeriez-vous faire entendre à nos auditeurs dans le monde entier ?
Je veux nommer Aretha Franklin, le titre « Ain't No Way ».
Pourquoi donc ?
Ouh, à propos de soul, à propos de blues, à propos de black, you can't get more blacker than that. Voilà, comme on dit ça en français, on ne peut pas être plus noir que ça, quoi.
Vous avez hésité ?
J'hésitais parce qu'il y a une chanson tout de suite qui est venue à ma tête, c'est James Brown, Say It Loud, Say It Loud, I'm black and I'm proud. Et j'ai dit, wow, j'ai dit, non, c'est pas provoqué ça. Donc, allez, sagesse, sagesse, Ain't No Way d'Aretha Franklin.
Et puis comme ça, on reste dans l'humeur de votre album, qui est plutôt un album posé, réfléchi, inspiré.
C'est ça.
Et donc, on va rester dans cette humeur-là avec Ain't No Way, Aretha Franklin, le choix de Natalia M. King dans l'épopée. Ain't No Way, Aretha Franklin en 68 sur l'album Lady Soul, à la demande de Natalia M. King, que nous avons été enchantés d'accueillir à nouveau dans nos studios. Quelle voix !
Presque, il n'y a pas de mots pour dire, on le sent simplement avec des frissons et avec des choses qui tournent dans les tripes. C'est... quelle voix, quelle émotion, quelle interprétation, tout ce qui est autour aussi, c'est éternel, c'est éternel.
Tant qu'elle reste dans son humeur gospel, elle est toujours une artiste incroyable.
Elle est née de ça. Donc, c'est comme j'avais dit avant, elle s'est fondée, s'est racinée dans ça. Donc, c'est excellent.
Les 14 et 15 octobre dernier, vous étiez au Jazz Club Étoile à Paris. Tout s'est bien passé ?
C'était excellent. Quel public chaleureux.
C'est le public parisien.
C'est ça. Et ils sont là avec le cœur ouvert, on nous reçoit et on a la chance.
C'est des connaisseurs. Il paraît, et beaucoup de musiciens américains nous disent ça, que le public français, globalement, a un intérêt et même un savoir sur les musiques américaines en blues, jazz, soul. On a un vrai intérêt pour ces musiques-là.
Eh ben, c'est un peu qui m'a attiré vers le rive gauche, entre parenthèses. Je pense que les Français, peut-être ils apprécient profondément le jazz et le blues, peut-être un peu plus que les Américains eux-mêmes. Ça vient de nous, on l'encourage, on le pousse. Mais il y a une profonde appréciation de le public et du peuple français pour cette musique.
Peut-être qu'on l'écoute avec un intérêt presque historique, comme quelque chose qui représente un patrimoine, un héritage.
Peut-être, peut-être. Mais je pense aussi que c'est parce que ça fait sentir. Et les Français, ils aiment bien sentir, je pense.
Merci beaucoup, Natalia M. King.
Joe Farmer, I'm the one who thanks you. C'est moi qui te remercie et j'espère que je te vois avant 15 ans.
D'accord, ça marche, on prend rendez-vous.
Merci. Merci aussi Nathalie, excusez-moi.
Exactement, j'allais le dire. Merci à une autre Natalia, Natalia Laporte, pour la réalisation impeccable du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal. France 24.